Alors d'abord, quelques éléments de contexte. Notre attention n'a jamais été autant sollicitée qu'aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de pixels accessibles. Alors pour donner quelques chiffres, sur YouTube seulement, il y a 400 heures de vidéos qui sont mises en ligne chaque minute. Ce qui signifie que en 20 minutes, c'est une année entière de vidéos qui est mise en ligne. Et encore, ce chiffre a été annoncé par YouTube il y a déjà quelques années. Il n'a pas été, à ma connaissance, remis à jour. Il a sans doute augmenté, mais en 20 minutes, il y a une année de vidéos qui est mise en ligne. Sur Netflix, en 2017, il y avait plus de 32 000 heures de programmes. Tout ce qui a été mis en ligne sur la plateforme Netflix en 2017, si on souhaitait en 2017 regarder tout ce qui avait été mis en ligne sur la plateforme, il nous aurait fallu 8 mois. Un autre chiffre sur l'App Store, par exemple, les applications qui sont disponibles pour l'iPad, il y en a plus de 2 millions à ce jour. Alors, ces objets vous sont sans doute familiers. Pourtant, ils sont très nouveaux dans l'histoire de l'humanité et nous les avons adoptés à un rythme record dans l'histoire de l'humanité. Et peut-être que nous ne maîtrisons pas encore aussi bien ces outils que nous ne le croyons. À l'avenir, ce film a été produit par une entreprise qui s'appelle Corning et qui l'a diffusé en 2011 et qui nous présente un certain nombre de projets sur lesquels cette entreprise travaille. Et si on regarde le film dans son intégralité, on se rend compte qu'une des possibilités à l'avenir, c'est que toute surface devienne un écran. Mais en fait, on ne regarde jamais un écran. Enfin, c'est assez rare qu'on regarde un écran. En fait, ce qu'on regarde, c'est ce à quoi l'écran nous donne accès, aux pixels auxquels l'écran nous donne accès. Et il nous donne accès à un océan de pixels infini. Le documentaire Hyperconnecté, le cerveau en surcharge, traite de ce sujet, de ce flot infini d'informations. Et dans un article du Monde du 13 octobre de 2018, il est mentionné la donnée suivante: l'humanité produit autant d'informations en 2 jours qu'elle ne l'a fait en 2 millions d'années. On peut avoir du mal à se représenter l'ensemble de ces pixels accessibles. On est noyé, oui, en tout cas, immergé dans un océan de pixels infinis et qui se remplit de façon infinie chaque jour. Mais pour pouvoir se rendre compte, en fait, peut-être qu'il faut simplement penser à ses propres usages. Donc, j'ai fait ce petit exercice et un petit mur de logo. Donc là, par exemple, en haut à gauche, Twitter. Sur l'un de mes 3 comptes Twitter, je suis abonné à plus de 5 000 comptes. Sur SoundCloud, je suis abonné à plusieurs centaines de chaînes. Si je regarde juste SoundCloud, déjà, je suis abonné à plusieurs centaines de chaînes et je vais zoomer sur une des chaînes, le logo SXSW, South by Southwest, un festival. Eh bien, en 2019, ce festival a publié des fichiers sons issus des conférences et des tables rondes qui ont eu lieu pendant le festival. Il y a 499 sons publiés par ce festival uniquement pour l'année 2019. Et sur l'ensemble des sons disponibles, uniquement sur la chaîne SoundCloud de South by Southwest, c'est 5 184 titres au total sur la chaîne. Si je zoome encore, en restant sur SoundCloud, la librairie Mola à Bordeaux compte 1 521 titres, 1 521 enregistrements de conversations qui ont eu lieu dans la librairie Mola. Je n'ai pas indiqué le logo non plus du Club 44, 2 207 titres. Donc le Club 44, c'est un club en Suisse qui organise des rencontres sous forme de conférences ou de tables rondes depuis plusieurs décennies. Il y a 2 200 sons à écouter. Et là, je ne me suis concentré que sur un des logos, qui est celui de SoundCloud. Je ne vais pas m'appesantir sur le logo sur lequel se trouve ma souris, les podcasts, ni sur Cybelle ou Magellan, qui sont deux nouveaux acteurs dans l'univers du podcast. Netflix, je l'ai évoqué, j'ai même pas mis le logo de YouTube, j'ai préféré mettre celui de Vimeo. Sur Vimeo, j'ai référencé plus de 600 titres à regarder plus tard, donc qui sont des formats courts, des épisodes de documentaires, qui sont à regarder plus tard. Je ne trouve pas toujours le temps de les regarder plus tard. J'ai 600 films en souffrance. Mais dans mes favoris, ceux que j'ai eu le temps de voir, il y a déjà 1 000 titres. On voit le logo de Datagueule. J'ai vu un certain nombre d'épisodes que j'ai trouvé très intéressants. Je n'ai pas eu le temps de tous les voir. Le logo Seventh, c'est un blog, The Seventh Matrix, qui a été lancé par Roderick Faulkner il y a plusieurs années, qui référence et qui donne des critiques de films de science-fiction, généralement plutôt des courts-métrages. Il fait ça depuis des années. Il y a des pépites. Des heures et des heures, voire des jours de pépites à explorer uniquement sur The Seventh Matrix. J'ai indiqué aussi ici, c'est une captation de mes enregistrements sur mon magnétoscope numérique, celui de Free, qui compte 250 gigas. Donc là, il est plein. Il y a plusieurs dizaines de films documentaires, épisodes de séries, films de fiction. Bref, et je ne commande. Ah si, pardon. Team Human, le logo qu'on voit ici, c'est un podcast lancé par Douglas Rushkoff. Il l'a lancé il y a plusieurs mois de cela. Il y a déjà 150 épisodes de conversation qui durent environ une heure. 150 épisodes à écouter. J'en ai écouté quelques-unes. Elles sont captivantes, mais je sais qu'il produit plus vite que je n'ai le temps de les écouter. Et ça va être le cas. Alors, c'est en plus une toute petite sélection de mes centres d'intérêt dans les univers numériques. Et pourtant, nos journées ne durent que 24 heures. Pour également les éléments de contexte, on est à une heure particulière, d'après moi, de notre histoire. Notre histoire à tous, et l'humanité est confrontée à de nombreux défis. Des défis environnementaux, la question du réchauffement climatique, la question du déclin massif de la biodiversité. Chaque année, la date du jour de dépassement est plus précoce. Cette année, elle tombait le 29 juillet 2019. Alors évidemment, cette date de jour de dépassement n'est qu'un symbole, puisqu'on a dépassé depuis très longtemps. On rappelle ce chiffre chaque année, mais finalement, on l'a dépassé depuis bien longtemps, ce jour du dépassement. Donc c'est le jour où l'humanité consomme autant de ressources naturelles que la Terre peut renouveler dans la même année. On se pose aussi la question pour notre avenir de la résilience énergétique, de la résilience alimentaire. Il y a également d'importants mouvements politiques et sociaux. Je voudrais vous lire un petit passage d'un article publié par Flore Vasseur sur le site de La Croix il y a quelques jours. Alors, Flore Vasseur, elle est auteure, réalisatrice de documentaires. Elle a notamment publié Ce qu'il reste de nos rêves, qui est un roman à propos de la vie de l'activiste Aaron Swartz. Et elle est également réalisatrice de documentaires, et notamment un documentaire qui s'appelle Meeting Snowden, j'ai eu la chance de l'accueillir à Caen pour une projection de ce film documentaire il y a plusieurs mois. Et donc cet article du mercredi 27 novembre, je vais vous en lire juste un extrait. Quand la vie déborde et descend dans la rue, le monde semble traversé de colères et d'émeutes, d'affrontements. Et si c'était autre chose qui s'exprimait, un tout autre récit, celui que tissent mes amis? Le premier, Bruno, m'a envoyé vendredi la liste des pays dans lesquels les peuples se sont soulevés ces derniers mois. Il faut le poser pour le croire. Albanie, Algérie, Allemagne, Bolivie, Brésil, Chili, Égypte, Équateur, Espagne, Éthiopie, France, Géorgie, Grande-Bretagne, Guinée, Haïti, Honduras, Hong Kong, Indonésie, Iran, Irak, Italie, Kazakhstan, Liban, Pakistan, Pérou, Puerto Rico, Roumanie, Russie, Soudan, Thaïlande, Venezuela. Le sursaut est souvent déclenché par une décision politique aux effets directs et immédiats sur la vie réelle. Une hausse du prix de l'essence, du ticket de métro, des denrées alimentaires, des SMS, une loi d'extradition. Le mouvement s'organise sur les réseaux sociaux, qui joue un rôle double et trouble de caisse de résonance et d'agence de renseignement. Je ne vais pas vous lire l'ensemble de l'article. Je donnerai le lien sur une page de mon site internet avec toutes les ressources que je vais évoquer aujourd'hui. Simplement, donc elle évoque notamment Aaron Swartz, elle évoque également Edward Snowden. Et à la fin de l'article, les gouvernements pensent manipuler les foules, les tenir à coups d'algorithmes, de lois d'urgence, de jeux. Ils croient les peuples idiots. Cela fait longtemps qu'ils y travaillent, mais voilà, il n'en est rien. La vie sursaute, ne se laisse pas faire, elle déborde et descend dans la rue. Et je vous laisserai bien sûr lire le reste de cet article. Et alors, relever tous ces défis demande toute notre attention. Malheureusement, il semblerait que nous traversions une crise de l'attention. C'est l'objet notamment de l'ouvrage de Bruno Patino, La civilisation du poisson rouge, que l'on voit ici encadré en rouge, justement, et qui nous dit sur sa quatrième de couverture, le poisson rouge tourne dans son bocal, il semble redécouvrir le monde à chaque tour. Les ingénieurs de Google ont réussi à calculer la durée maximale de son attention, 8 secondes. Ces mêmes ingénieurs ont évalué la durée d'attention de la génération des millennials, celle qui a grandi avec les écrans connectés. 9 secondes. Alors, moi, j'ai eu l'expérience en tant que formateur, il y a de cela 2-3 ans, j'ai demandé aux étudiants que je rencontrais de regarder une conférence d'une quarantaine de minutes pour la session suivante. Et là, une personne lève la main, une étudiante lève la main et me dit « Mais vous rêvez ? Jamais on va regarder 40 minutes. » Une conférence en plus, mais... Jamais, on ne regardera pas 40 minutes d'une conférence chez nous, ce n'est pas possible. Si au bout de 3 secondes, nous ne sommes pas accrochés, on zappe. Elle a fait preuve d'une grande honnêteté en le disant. Dans les éléments de contexte, on se trouve aujourd'hui dans un moment de l'humanité où je trouve que la frontière entre la fiction et la réalité est de plus en plus floue. Alors il y aurait beaucoup de façons de l'illustrer. J'en ai choisi certaines. Si on se projette quelques années en arrière et qu'on se dit, en fait, quelqu'un qui, dans son parcours professionnel, a notamment été animateur ou co-animateur d'une émission de télé-réalité, The Apprentice, et cette personne va devenir président des États-Unis, et vous verrez passer sur son compte Twitter une photo de lui en Rocky Balboa. Vous auriez pu me dire, moi, si j'avais présenté ça en tant que scénariste à une société de production, on aurait pu me dire, calme tes ardeurs, tu vas trop loin dans l'imaginaire, reviens à quelque chose de plus réaliste. Eh bien, c'est le monde dans lequel nous vivons. Ce tweet, vous pouvez le retrouver, et il a d'ailleurs été retweeté plus de 160 000 fois. Un autre sujet aussi qui, pour moi, montre qu'on est que la frontière entre la fiction et la réalité est de plus en plus floue, c'est le sujet des fake news. Alors, pourquoi est-ce que, à nouveau, une illustration de ce pauvre Donald Trump, enfin, pauvre, façon de parler, parce qu'en fait, l'expression fake news est une expression souvent utilisée par Donald Trump, il n'en est pas l'inventeur, mais néanmoins, il l'utilise régulièrement pour dénoncer des faits, des informations, notamment des informations qui le concernent, et qu'il pointe en disant « fake news ». Alors, les fake news, il faut distinguer les différentes sortes de fake news. Il va y avoir des fausses informations qui sont propagées à dessein pour nous intoxiquer. Après, il y a des informations erronées qui vont circuler, mais l'auteur de ces informations est de bonne foi. Et ça va être le même cas pour les gens qui vont relayer les fake news. Il y a des gens qui vont relayer les fake news à dessein, de façon à nous intoxiquer, des gens qui vont relayer des fake news de bonne foi, en pensant bien faire. Au-delà des fake news, il y a un autre sujet aussi qui efface la frontière entre la fiction et la réalité. C'est ce qu'on pourrait qualifier, ou en tout cas ce que le philosophe américain Harry Frankfurt qualifie de bullshit. Il a écrit un essai sur le sujet, On Bullshit, qui a été traduit en français sous le titre De l'art de dire des conneries. Alors qu'un menteur, lui, fait délibérément des déclarations fausses, eh bien, le diseur de baratin, si je traduis bullshit par baratin, le diseur de baratin, lui, il est simplement désintéressé par la vérité. Et Harry Frankfurt nous dit « Bullshit is a greater enemy of the truth than lies are ». Le baratin, c'est un plus grand ennemi de la vérité que ne le sont les mensonges. Le mensonge, on peut lui opposer des faits et lui opposer le réel. Un baratineur n'a que faire de la vérité. Alors, où se situe dans ce contexte la vérité ? Eh bien, on se trouve de plus en plus dans un brouillard dans lequel il est difficile de savoir où elle se trouve. Alors, pour avoir une idée de ce qu'on pourrait qualifier de baratin, je vous invite à regarder ce documentaire court, ou simplement d'allumer une de vos chaînes d'information à une heure sur laquelle on va avoir lieu un débat. Alors difficile, dans ce contexte, de savoir quel degré de confiance on peut accorder à ce à quoi on est en train de prêter attention. On se rend compte d'ailleurs que ça a des effets sur... alors ça a des effets, ou c'est peut-être aussi une partie de la cause, en tout cas de la perte de confiance dans les médias. Donc là, en fait, ce sont des chiffres du baromètre Edelman qui analyse notamment ces données sur la confiance, donc dans différents pays, la confiance envers les médias. Alors, tous les médias sont concernés. C'est vrai de ce que d'aucuns appellent les médias traditionnels. Et ça a pour conséquence que les peers, donc les pairs, nos pairs, chacun de nous, les peers sont vus aussi crédibles que les experts. C'est-à-dire que quelqu'un avec qui vous êtes connecté sur un réseau social, hein, potentiellement, vous allez autant lui faire confiance qu'à un expert. Toujours ça, ce qui rend également difficile le fait de savoir où va s'établir, où est le réel, quelle représentation du réel nous pouvons avoir dans ce contexte. Ce qui ne devrait pas nous aider à regagner la confiance dans ce à quoi on prête attention, les deepfakes. Là, vous reconnaissez peut-être un acteur américain, Tom Cruise. Alors en fait, ce n'est pas Tom Cruise, c'est un comédien qui s'appelle Bill Hader, qui, sur un plateau télévision, a fait une imitation de Tom Cruise. Et dans cette vidéo, sur la chaîne d'un créateur qui s'appelle Control Shift Face et qui publie des deepfakes, eh bien, la vidéo est retravaillée. Et les visages sont modifiés en temps réel par un outil, ce qu'on appelle les deepfakes. Pour l'instant, ça a l'air assez anecdotique, mais on peut se poser la question de savoir si demain, de plus en plus d'images sont trafiquées de cette manière-là, on peut faire dire potentiellement n'importe quoi à n'importe qui. Alors on pourrait se dire... Tout ça n'est pas sérieux. Il y a des gens qui cherchent à nous mentir, qui diffusent des fausses informations, qui vont trafiquer des vidéos. Mais en fait, si on y regarde bien, est-ce qu'on n'est pas tous aussi un petit peu responsables de cette situation ? Une capture d'écran d'un film court qui s'intitule What's on Your Mind. Et dans ce film court, le personnage principal présente sa vie sous un jour favorable, alors que sa vie est en train de se décomposer. Et il la présente sous un jour favorable sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, même en étant sincère, quand nous publions, même en étant le plus sincère possible, il y a nécessairement une part de fiction. Toujours. Si on publie un portrait de soi, on va publier plutôt un portrait avantageux. Si on partage une actualité professionnelle, on va partager plutôt une information qui va nous valoriser et pas forcément s'étendre sur des informations qui nous valoriseraient moins, et ainsi de suite. On est toujours sincère dans notre démarche, mais nécessairement, on fictionne le réel. Ça va jusqu'au point où un journaliste du média Vice, Uba Butler, a fait l'expérience, il y a quelque temps de cela, de créer un faux restaurant et d'en faire la promotion sur TripAdvisor. Eh bien, en 8 mois, il a réussi à en faire le restaurant numéro 1 dans le classement TripAdvisor des restaurants à Londres. Le numéro 1. Il refusait tous les jours des réservations. Les gens se battaient, essayaient de faire marcher leur réseau pour avoir des réservations dans ce restaurant qui n'a jamais existé. De la même manière, je publierai, donc il s'agit ici d'un documentaire court qui relate de cette histoire et vous pourrez le retrouver en enrichissement de cette intervention et de la captation de nos interventions sur le site de l'Avenir des Pixels. On voit bien qu'on a de plus en plus de signes, alors j'en mentionne quelques-uns, je ne m'étends pas sur l'ensemble des signes qu'on pourrait identifier, sur le fait qu'on est dans un univers où la fiction et la réalité, il est difficile de distinguer l'un de l'autre. Néanmoins, je voudrais faire une parenthèse à propos d'un sujet qui est la fraude publicitaire. Alors, j'ai publié sur le site avenirdespixels.net un article assez dense sur le sujet, dont le titre est « Des robots ciblent des robots et des milliards d'euros partent en fumée ». Alors, la fraude publicitaire, donc des robots ciblent des robots. En fait, la publicité sur Internet est de plus en plus achetée, non pas par des humains, mais par des robots qui vont acquérir des espaces publicitaires, mais ce sont des robots qui font l'acquisition de ces espaces publicitaires. Mais le truc, c'est qu'en face, donc, l'espace publicitaire, il est valorisé quand quelqu'un est exposé et prête attention à cette publicité. Mais le phénomène de la fraude publicitaire, c'est qu'en face, de l'attention est simulée par des robots pour gonfler les chiffres d'audience. Donc on a des robots qui achètent de la publicité et ces publicités sont vues par des robots et facturées à des annonceurs. Et ça représente des milliards d'euros qui partent en fumée. Dans l'univers dans lequel nous nous trouvons, tous les pixels ne se valent pas. Alors, petite parenthèse, je parle de pixels en fait pour parler de tout ce à quoi on a accès par l'intermédiaire des différents écrans qui nous entourent. Et je m'intéresse notamment à deux éléments, ce que je qualifierais de la surface des pixels. Et donc la surface des pixels, quelle est l'histoire qu'on est en train de me raconter, quels sont les messages, quelles valeurs sont portées par les pixels que je suis en train de regarder. Et puis les coulisses des pixels. Quel est le degré de liberté éditoriale, artistique, de quel degré de liberté ces pixels sont nourris. La technologie, l'outil qui nous permet d'y accéder aussi, pour moi, font partie des coulisses des pixels. Quelles sont les données produites, qui les récupère, qui les analyse. Et donc, voilà, on peut distinguer la surface des pixels et les coulisses des pixels. Et là, si je vais sur la plateforme YouTube, Je vais regarder cette vidéo et puis je vais la mettre en perspective avec cette autre vidéo. A priori, on est dans le même environnement. Nous sommes chez YouTube. Donc en termes de coulisses de pixels, il y a un élément commun, c'est le diffuseur. Mais en fait, alors là c'est très subjectif, mais pour moi, je fais une grosse distinction entre ces deux vidéos, alors que pour YouTube, ce sont deux vidéos. Pour ceux qui vont comptabiliser les audiences, ce sont deux vidéos sur YouTube. Mais si on y regarde un petit peu de plus près, on a à gauche une vidéo qui provient d'une chaîne, Fun Toys Collector Disney, qui en 2014 était la troisième chaîne YouTube la plus vue au monde. C'est une chaîne de ce qu'on appelle les unboxing videos. En fait, ce sont des gens qui se filment en train d'ouvrir des paquets. Donc là, ce sont des paquets de jouets. Et donc, toutes les vidéos, c'est quelqu'un qui ouvre des paquets de jouets. Cette chaîne, depuis sa création, comptabilise 14,8 milliards de vues. À droite, c'est une conférence de Eben Moglen, professeur de droit et d'histoire du droit à l'Université Columbia. En 2011, il est avocat conseil de la Free Software Foundation. Et cette conférence s'intitule, et je n'ai pas choisi cette conférence, j'ai choisi cette conférence à dessein, Freedom of Thought Requires Free Media. Et c'est très subjectif, le fait de mettre en perspective ces deux vidéos, je le reconnais, c'est très subjectif. Mais de mon point de vue, ce qu'apporte chacune de ces vidéos à l'humanité, ces deux vidéos n'apportent pas la même valeur à l'humanité. Après, je vous invite à vous faire votre propre opinion en les regardant. Alors, les enjeux, pour moi, de ce dont on est en train de parler, de la question de notre attention, déjà, un premier point, c'est qu'aujourd'hui, notre vie numérique et notre vie physique sont complètement imbriquées. Et quand on regarde les écrans et quand on prête attention à des pixels, j'entends parfois dire... L'univers numérique, c'est un univers virtuel, comme s'il y avait d'un côté le monde numérique, de l'autre côté le monde physique. Mais ils sont complètement imbriqués et les allers-retours entre les deux sont constants. Si je reprends l'exemple de l'article de Flore Vasseur, les mouvements sociaux, ce sont des gens physiquement dans l'espace public, dans la rue, ça laisse des empreintes numériques, des vidéos, des publications sur les réseaux sociaux. Et à l'inverse, des publications numériques vont avoir une incidence sur le monde physique. C'est ce que je qualifierais, ou ce que je qualifie, de l'impact des pixels. Alors, d'après moi, il y a différents types d'impact. Les pixels auxquels on va prêter attention peuvent avoir un impact sur notre cerveau. J'y reviendrai dans une seconde. Peuvent avoir un impact sur notre humeur. Ça a été prouvé par des études. Sur les réseaux sociaux, des gens qui vont publier des informations sur des informations plutôt d'une tonalité négative, plutôt des mauvaises nouvelles, des publications sur un ton morose, eh bien, ça va avoir un effet sur l'humeur des gens qui vont être exposés à ces publications. Donc ce à quoi on prête attention a un impact sur notre humeur. Et d'ailleurs, il y a eu des études sur le sujet, mais il y a une entreprise qui s'est prêtée à une étude grandeur nature sur le sujet, c'est Facebook. Alors elle s'est prêtée à une étude il y a quelques années sans prévenir les gens qu'ils étaient sujets d'études. Et donc elle a volontairement accentué la propagation d'informations négatives auprès d'un groupe d'utilisateurs et d'informations avec une tonalité plus positive sur un autre groupe d'utilisateurs de façon à calculer, à évaluer l'impact sur l'humeur de ces deux groupes. Et donc on peut en faire l'expérience, mais Facebook en a fait l'expérience. Ce à quoi on va prêter attention va également avoir un impact sur notre représentation du monde. Si ça a un impact sur notre représentation du monde, ça a forcément un impact sur notre façon d'habiter le monde. Donc ça a un impact sur la façon dont le monde lui-même se façonne, ça a un impact sur le monde lui-même. Et puis, ça peut avoir un impact également sur notre entourage. On le voit par exemple quand il y a beaucoup de parents, de jeunes enfants qui publient des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux, qui ne demandent pas à leurs enfants la permission de publier leurs photos. Eh bien, les premiers procès d'enfants contre leurs parents arrivent parce que ça peut porter préjudice à des enfants devenus adultes que dans l'environnement professionnel, on retrouve des photos d'eux dans un jardin public, à l'école, que sais-je. Donc, ce à quoi on prête attention peut avoir un impact sur notre entourage. Alors, pour l'illustrer, rapidement, alors c'est une fenêtre que je ne vais pas ouvrir entièrement, je l'entouvre, il y a la question de l'addiction. Ce à quoi on prête attention peut créer chez certains ou certaines une certaine forme d'addiction. Autre forme d'impact, là c'est sous forme d'une question, c'est le journaliste Julien Brigot qui tweetait cela en juin dernier et qui référençait en fait les émissions à propos des forces de l'ordre. Et il liste enquête d'action, enquête exclusive, zone interdite, enquête sous haute tension, 90 minutes enquête, garde à vous, le sens de l'effort, etc. etc. Combien de téléspectateurs endoctrinés de force, hein, c'est comme ça qu'il pose la question. Quel impact, on pourrait poser la question différemment, quel impact l'ensemble de ces émissions de télévision sensationnalistes qui propagent de la peur, quel impact l'ensemble de ces émissions peuvent avoir sur l'état mental d'une société. Je vous résume maintenant sur la création audiovisuelle et l'impact de la création audiovisuelle. Là, il s'agit d'un article qui relate de l'impact de la série « When They See Us », en français, Dans leur regard, qui a été réalisé par Ava DuVernay et diffusé sur Netflix, lancé dans le monde entier le 31 mai dernier. C'est une série à propos du procès de 5 adolescents accusés à tort. Ils sont arrêtés et condamnés par un jury. Et bien, comme le révèle l'article, cette série de fiction inspirée de faits réels a eu un impact très concret sur la carrière de celle qui, à l'époque, était procureure. Et d'ailleurs, cette série ne s'en cache pas. Elle souhaite avoir un impact sur le fonctionnement de la justice américaine. Un autre exemple, le film Regarde ailleurs. Le film documentaire Regarde ailleurs, j'aime en plus, je trouve le titre particulièrement adapté à nos échanges d'aujourd'hui, le film documentaire Regarde ailleurs de Arthur Levivier, qui traite du démantèlement de la jungle de Calais. Et bien, dans un entretien filmé, il explique avoir organisé une projection dans un lycée à proximité de la jungle. Et il a reçu des témoignages de certains lycéens ayant regardé le film. Et certains lui ont dit au départ qu'ils étaient hostiles aux réfugiés. Et le fait d'avoir vu le film a totalement transformé leur regard. Et il a reçu ce témoignage de la part de spectateurs à qui il a présenté, de jeunes spectateurs à qui il a projeté le film. Un autre exemple, la web-série Out With Dad, c'est une série canadienne réalisée par Jason Lever. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Jason Lever il y a plusieurs années dans le cadre d'un festival de web-série. Et il m'a fait part d'une anecdote. Alors qu'il préparait l'une de ses saisons, il a reçu de la part d'un spectateur italien, alors que la série est produite au Canada, un spectateur italien a fait un don à la série de $5,000 canadiens pour contribuer au financement de nouveaux épisodes. Il a contacté évidemment ce spectateur italien pour le remercier déjà et puis comprendre ce qui le motivait à donner une telle somme d'argent pour produire de nouveaux épisodes. Et en fait, la personne lui a dit « Mais vous m'avez permis de changer radicalement mon regard sur l'homosexualité. Vous m'avez rendu tolérant, alors que j'étais tout l'inverse de ça. Vous avez entièrement transformé mon regard, donc vous avez transformé ma vie. Et il faut que vous produisiez de nouveaux épisodes, et je souhaite y contribuer. » Dernier exemple, dans le domaine de la création audiovisuelle, la série documentaire Ziara, qui en est déjà à sa 4e saison. Alors, ses créatrices, la réalisatrice Muriel Aboulrous et sa productrice Denise Jabour, donc travaillent depuis plusieurs années sur cette série. Tell them that Ziara, c'est le nom de la série, is our way of loving the world and healing the world and uniting the world. En fait, elles sont en mission depuis plusieurs années avec cette série qui s'appelle Ziara, qui signifie la rencontre, et ce sont des épisodes documentaires, ce sont des portraits, et elles sont en mission pour utiliser la création documentaire et la création audiovisuelle pour propager un message d'amour et de tolérance. C'est assez rare, je trouve, de voir des spectateurs en train de prêter attention à ce qu'ils sont en train de regarder. Et je trouve très frappant de voir ces regards complètement captivés par ces épisodes de Ziara qui ont été projetés devant eux. Et la réflexion qu'on peut se faire, c'est si on se projette nous-mêmes et qu'on se dit comment est-ce que ça les transforme intérieurement, comment est-ce qu'ils vont agir en sortant de ces projections, les images qui viennent en tête sont plutôt des images extrêmement belles, extrêmement positives. Et l'impact des pixels, donc les pixels ont véritablement un impact, petite parenthèse, je les documente sur mon compte Twitter avec ce hashtag « Impact of Pixels ». Ce qui me fait dire que nous sommes tous des militants. Puisque chaque pixel a un impact, dès qu'on va prêter attention à un pixel, on soutient tout l'écosystème autour de ce pixel. Encore plus, évidemment, si on partage ce pixel et qu'on le propage autour de nous, on est militant, qu'on le veuille ou non. Alors on peut choisir son camp. Et en fait, il faut prendre conscience qu'on est de toute façon nécessairement militant. Si je passe 3 heures cet après-midi sur YouTube, je soutiens le modèle économique de YouTube. Si au lieu de passer ces 3 heures sur YouTube, je les passe sur Vimeo, je soutiens Vimeo et les créateurs qui sont hébergés sur la plateforme. Et ainsi de suite pour l'ensemble des acteurs du numérique. Qu'on le veuille ou non, nous sommes tous des militants par le biais des pixels auxquels nous prêtons attention et ceux que nous propageons. Chaque seconde que nous passons un pixel, chaque pixel que nous créons et chaque pixel que nous propageons contribue à façonner le monde. Et là, il va nous falloir faire des choix. Je l'ai dit tout à l'heure, nos journées ne durent que 24 heures. On est amené en permanence à faire des choix. Idéalement, il serait utile que ces choix soient des choix libres. Malheureusement, il arrive que notre attention soit manipulée. Parce que le défi pour tous, notamment pour tous les acteurs du numérique, mais au sens large, c'est aussi le défi pour les créateurs d'avoir une part d'attention. Le défi notamment des acteurs du numérique, eh bien, c'est de capter notre attention. Leur modèle économique repose sur cette attention par la vente de publicité, par l'acquisition et la revente de données. D'ailleurs, le péché originel d'Internet, ce n'est pas moi qui le qualifie comme ça, c'est Ethan Zuckerman. Ethan Zuckerman a publié d'ailleurs un article sur le sujet en 2014, « The Internet's Original Sin », le péché originel d'Internet. Eh bien, à l'époque, il travaillait pour Tripod.com qui cherchait à établir un modèle économique. Et il a lancé l'idée du pop-up, cette petite publicité qui apparaît à l'affichage. Et en fait, il se repent dans cet article de 2014 en disant « Mais en fait, je suis à l'origine du péché originel d'Internet avec cette invention, le pop-up. C'est désastreux, puisqu'en fait, j'ai ouvert la voie au fait que la surveillance est le modèle économique par défaut d'Internet. » Alors, les acteurs du numérique, pour revenir à eux, quels moyens peuvent-ils mettre en œuvre pour capter notre attention et puis la retenir? Alors, petite sélection, je ne pense pas du tout que la liste soit exhaustive. On va avoir par exemple Les notifications, alors bien sûr, elles sont en rouge, c'est la couleur de l'urgence. Quand on a une notification qui s'affiche en rouge, on a l'impression qu'il faut absolument qu'on aille regarder. On a la petite flamme sur Snapchat. Alors, je lis mes notes, désolé, je ne suis pas utilisateur de cette plateforme. Je sais simplement que ces petites flammes existent. Alors, sur le site de Snapchat, ils évoquent le mode Snap Streak, ça chauffe sur Snapchat. Pour rester en mode Snap Streak, ça chauffe. Les deux Snapchatters doivent s'envoyer chacun un snap, pas un chat, au minimum toutes les 24 heures. Plus on échange sur Snapchat, plus on garde active nos petites flammes. Et le défi, c'est de ne pas perdre sa petite flamme. Donc évidemment, ça nous invite à revenir au moins une fois par jour. On a ici à droite, au milieu de l'écran, Kobo. Alors Kobo, donc c'est une liseuse. Kobo qui a lancé les Kobo Reading Life Awards. Obtenez des récompenses spontanées par le simple fait de lire. Kobo Perso analyse votre activité de lecture et vos commentaires et vous envoie des recommandations de lecture qui correspondent à vos intérêts personnels. Et donc on a des petites récompenses, des petits badges, plus on utilise la plateforme. On va avoir là-haut... Vous reconnaissez une machine à sous de casino. En fait, c'est pour illustrer le principe de la récompense aléatoire. Alors, la récompense aléatoire, on va la voir dans différents endroits, mais notamment sur Twitter. Alors sur Twitter, en fait, quand vous rafraîchissez les nouveaux tweets, en fait, c'est un peu comme si vous tiriez le manche de la machine à sous, et puis il y a des nouveaux tweets qui arrivent. Alors dedans, il y a des tweets absolument consternants ou qui ne vous intéressent pas, et puis il y a des pépites, des articles passionnants, des vidéos très intéressantes, une information à laquelle dont vous n'aviez pas encore eu connaissance. Et bien c'est la récompense aléatoire. Il va y avoir du futile, de l'inutile, de la perte de temps, et puis des pépites. C'est le principe du casino, cette récompense aléatoire. On a ici en bas à droite des vignettes Netflix. Alors les vignettes Netflix, les ingénieurs de Netflix ont publié en décembre 2017 un article sur Medium pour expliquer comment ils personnalisent les images d'illustration des séries, des films, des documentaires en fonction des préférences de chaque utilisateur. Donc en fait, chaque utilisateur de Netflix a une expérience de Netflix différente. Même si on se voit recommander la même série, on ne sera pas exposé au même visuel en fonction de notre profil, de ce à quoi on a regardé, de nos centres d'intérêt, etc. Alors, ce n'est pas la seule technique pour nous captiver, pour nous retenir chez Netflix. Netflix en a beaucoup d'ailleurs. Netflix se définit elle-même comme une data-driven company. Elle ne s'est jamais définie comme une société de production qui diffuse. Elle ne se définit pas en fonction d'une ligne éditoriale. Elle se définit elle-même comme une data-driven company, une entreprise gouvernée par la donnée. Et en bas à gauche, pour finir sur cette page, c'est Ruzzle, c'est un petit jeu. Donc on a une grille de lettres et il faut reconstituer des mots. Et en fait, on gagne ce que le Ruzzle appelle des exploits. Félicitations, vous avez gagné un exploit. Et on voit bien, on voit bien, le logo Twitter, le logo Facebook. Quand on a gagné un exploit, on est même incité ensuite à le propager et donc à aller recruter notre entourage. Et ça, ce recrutement de notre entourage, Netflix le propose également, mais ils sont Ruzzle et Netflix loin évidemment d'être les seuls acteurs du numérique à faire en sorte que nous soyons à ce que nous recrutions parmi les membres de notre entourage. D'ailleurs, c'est abordé dans ce film documentaire Generation Like, film documentaire de Douglas Rushkoff, encore lui, et Frank Coogan, qui montre notamment dans un passage du film comment on associe les spectateurs au succès des blockbusters. Donc il y a des entreprises aux États-Unis spécialisées dans le lancement de blockbusters, dans le marketing des blockbusters. Et là, ils utilisent la technique de la ludification, la gamification en anglais. Donc en fait, on va gagner alors, je ne sais pas comment les qualifier, des récompenses, mais en fait, ce sont des récompenses virtuelles. Un peu comme sur Snapchat, des petites flammes. Donc ça va dépendre de l'univers de fiction du film. On va gagner des récompenses, plus on va partager la bande-annonce, plus elle va être retweetée, plus on la partage sur Facebook, etc. Et dans le documentaire, à un moment, donne la parole à une adolescente qui dit « j'ai bien conscience d'être manipulée » et elle passe ses journées à faire la promotion d'un long métrage de fiction. J'ai bien conscience d'être manipulé, mais ça m'est égal. Alors, il y a d'autres façons hein, de manipuler notre attention. Il va y avoir des sujets qui vont captiver notre attention, des sujets futiles. Donc là, c'est un strip du dessinateur et auteur Stéphane Bouzon qui nous dit, et voilà, encore un documentaire où les experts disent que la planète voit mal. Mais pourquoi tout le monde s'en fout ? Oh, regarde, ils ont battu le record du monde de la plus grande pizza aux anchois. Voilà comment on peut détourner notre attention, par le futile. Dans la presse, on va avoir des articles qu'on appelle, avec des guillemets, les articles putaclic. On va avoir aussi les clashs. Les clashs, alors pareil, avec des guillemets, c'est des gens qui vont s'opposer, notamment sur des plateaux télévisés. Les clashs, le futile, ou les titres, par exemple dans la presse, sous forme de « faut-il avoir peur de trois petits points ? » Faut-il avoir peur de la vache folle ? Faut-il avoir peur de son voisin ? Faut-il avoir peur de la surveillance, de la reconnaissance faciale ? Faut-il avoir... Les titres formulés sous la forme « faut-il avoir peur ?» ont pour effet de manipuler notre attention et de nous inciter à savoir s'il faut avoir peur de quelque chose. Autre façon de manipuler notre attention, les algorithmes. Alors les algorithmes, en ne perdant pas de vue que les algorithmes ne sont pas des formules mathématiques qui tombent du ciel, les algorithmes sont conçus par des humains qui ont une vision du monde qui leur est propre. D'ailleurs, c'est pourquoi Cathy O'Neill, qui est l'auteur notamment de ce livre, Weapons of Math Destruction, nous dit des algorithmes que les algorithmes sont une opinion encapsulée dans une formule mathématique. Donc derrière les algorithmes, donc si je prends l'exemple de l'algorithme de Facebook, l'algorithme de Facebook va déterminer à quelle publication, parmi l'ensemble des publications des gens avec qui je suis connecté sur Facebook ou des pages que j'ai décidé de suivre, parmi l'ensemble de ces publications, lesquelles, auxquelles est-ce que je vais être exposé ? Eh bien, c'est un algorithme, celui de Facebook, qui le détermine. Et en fait, moi, quand je pense à l'algorithme de Facebook, eh bien, en fait, c'est cette image-là qui me vient en tête, où on voit Mark Zuckerberg dans une foule qui semble sous emprise. Alors là, on a l'impression il voit ce que Mark Zuckerberg veut bien qu'il voit. Alors, bien sûr, je sais bien qu'il est plus juste de dire une foule voit ce que l'algorithme de Facebook veut bien qu'elle voit. Mais il ne faut pas perdre de vue, en tout cas, que lorsque nous prêtons attention à des pixels, eh bien nous produisons des données en permanence. Et ces données, la multitude des données que nous produisons, sont récupérées par les acteurs du numérique. Alors, pour prendre un exemple, dans le cas de Google, Vincent Matalon, journaliste à France Info, en juin dernier, publiait cet article. Oui, en fait, il a récupéré l'ensemble des données que Google possède sur lui. Et donc, il s'est rendu compte que Google garde des traces de tout ce qu'il a acheté en ligne. A consigné depuis 2015 l'utilisation de toutes les applications ouvertes sur son téléphone, jour après jour, minute par minute. Il a ainsi été capable de retracer des journées entières de sa navigation sur son smartphone. Google, toujours, a gardé trace de tous ses déplacements, de toutes ses recherches sur le moteur de recherche, 150 000 requêtes entre 2013 et 2019, de toutes ses recherches sur YouTube depuis 2011 et de toutes ses données de navigation sur Chrome. Alors Vincent Matalon a d'ailleurs fait le même travail d'analyse en récupérant les données que Facebook avait sur lui. Alors, je ne vais pas forcément pouvoir rentrer dans le détail de l'ensemble des données qui sont acquises sur nous par l'intermédiaire des pixels auxquels on va prêter attention et avec lesquels nous allons interagir. Néanmoins, il me paraît important de préciser que derrière notre navigation, il y a des acteurs qui sont peu connus du grand public, les third-party trackers, qui sont présents sur presque 100% de notre navigation. Quantcast, par exemple, récupère des données sur 100 millions de sites à travers le monde. Et toutes ces données récupérées sur nous donnent lieu à des transactions et donc enrichissent des bases de données. Et un acteur comme Axiom, qui est un courtier en données, se targuait en 2017 d'avoir des données sur 700 millions de personnes et possédait 5000 critères par personne analysée. Et donc les acteurs du numérique, ils ne cherchent pas seulement à capter notre attention, mais à nous connaître sous nos moindres facettes, et notamment à comprendre les émotions qui nous traversent quand nous prêtons attention à des pixels. Et là, c'est une application dans le domaine de la publicité pour analyser quand on est exposé à un pixel, comment, par quelles émotions nous sommes traversés. Et de plus en plus, les acteurs du numérique sont capables de l'analyser en temps réel. On pourrait se dire, tout ça est de la science-fiction, des acteurs qui sont en train quasiment de rentrer dans notre cerveau. Alors en fait, est-ce que c'est vraiment de la science-fiction quand on sait que Facebook avait en 2017 déjà 60 personnes qui travaillent à savoir comment lire, quasiment lire dans nos pensées en fait. Et ils l'ont prouvé sur scène en fait, où Regina Dugan a pu écrire un texte par la pensée. Alors parmi ce qu'on peut appeler les creepy patents, c'est-à-dire les brevets qui sont déposés par Facebook, le New York Times a analysé un certain nombre de brevets que Facebook a déposés. Facebook a déposé un brevet qui, par exemple, permet d'utiliser la caméra pour détecter nos émotions en temps réel, en réaction à la lecture, comprendre notre état relationnel. Alors évidemment, tous les brevets ne sont pas nécessairement, lieu à une mise en place réelle, mais en tout cas, c'est une indication de la direction que souhaite prendre une entreprise. Et on pourrait se dire, ils savent tellement de choses, ils vont finir par savoir ce qu'on pense. Et là, la raison nous dirait qu'il s'agit d'une dystopie. Et bien pourtant, voilà, on a des acteurs qui sont quand même très proches de ça aujourd'hui. Et donc, nous sommes devenus prévisibles. Les données qui sont acquises sur nous nourrissent des algorithmes de recommandation. Et ils vont choisir, ils vont nous proposer, après tel ou tel visionnage, d'aller dans telle ou telle direction. Sans rentrer dans le détail des différentes plateformes, juste si on regarde YouTube, aujourd'hui, les recommandations fournies par YouTube à ses utilisateurs représentent 60 à 75% du trafic de la plateforme. D'ailleurs, Guillaume Chalot nous le dit. Il a travaillé dans l'équipe chargée de l'algorithme de recommandation de YouTube de 2010 à 2013. Le principe de l'algorithme est d'essayer de faire rester l'utilisateur le plus longtemps possible sur la plateforme en étudiant toutes les combinaisons de vidéos regardées par plus de 2 milliards de personnes. Il est capable de prédire très précisément quelle vidéo a le plus de chances d'être vue par chaque utilisateur. Et ce qui nous le dit également, c'est que en fait, il a montré il y a 2 ans que l'algorithme recommandait la théorie de la Terre plate environ 10 fois plus que celle qui montre que la Terre est ronde. Et il donne dans l'article d'autres exemples de cercles vicieux qui amplifient la haine, puisque la haine, elle est très efficace pour le temps de vue. D'ailleurs, la technosociologue Zineb Tufekci a testé l'algorithme de recommandation de YouTube. Elle a suivi systématiquement les recommandations de l'algorithme. Et dans cet article, elle nous explique que quel que soit le point de départ, elle nous emmène, l'algorithme va nous emmener vers des vidéos de plus en plus extrêmes. Je vais passer rapidement sur ce qui est en train de se produire. Google Home, donc Google a annoncé, ça a été relayé par le Figaro dans un article en date du 20 novembre dernier. Google va créer des bulletins d'information personnalisés en se basant sur le profil des utilisateurs. Alors là, on pourrait se dire, génial, c'est difficile de s'informer. Merci Google, vous allez me proposer un bulletin d'information personnalisé avec vos partenaires. Génial, je vais gagner du temps, je vais être bien informé. Mais le truc, c'est que s'informer, comme le dit Ignacio Ramonet, fatigue. S'informer fatigue. Et c'est à ce prix que le citoyen acquiert le droit de participer intelligemment à la vie démocratique. Et oui, s'informer, ça prend du temps. Ça nécessite quasiment un travail journalistique de soi-même. Avec ce type de proposition, de l'information sur mesure, le risque, c'est que nous soyons enfermés dans ce que Elie Pariser nomme les bulles de filtre. C'est-à-dire que on va chacun être enfermé dans des informations qui nous confortent dans notre confort, dans nos usages, dans nos propres représentations du réel. Mais là se pose un vrai, d'après moi, gros problème démocratique. Comment est-ce que, si tout le monde n'a pas accès aux mêmes informations, comment est-ce qu'on se représente le réel? S'il n'y a plus de base commune pour échanger, comment est-ce qu'on fait pour débattre? Et le cercle vicieux, c'est que les acteurs qui de plus en plus font tout pour mieux nous connaître, de façon à plus capter notre attention, donc à nous retenir plus longtemps, vont acquérir encore plus de données sur nous, donc encore plus nous connaître, et ainsi de suite, dans un cercle vicieux. Harald Balkan nous dit « Ceux qui possèdent les données sur nous, nous possèdent. » C'est très bien exprimé ainsi. on pourrait aussi l'exprimer en disant ceux qui possèdent les données à propos de ce à quoi nous prêtons attention possèdent l'accès à notre conscience. Toujours pour illustrer le fait qu'aujourd'hui, on a aussi un problème. Tout ce que j'ai dit là, j'ai bien conscience, n'est pas extrêmement réjouissant. Mais en fait, je vais aller encore plus loin, désolé. La haine et la discorde sont extrêmement rentables. Alors, je vous renvoie, j'accélère, donc je te donnerai accès à ces ressources. Je vous renvoie au poste, au blog de Samuel Gontier, « Ma vie au poste ». Et en fait, quel mécanisme en fait se met en place? Je trouve qu'il est très bien exprimé par Guy Berenbaum dans un tweet il y a quelques jours. En fait, quand on voit à la télévision des soi-disant dérapages, des gens qui vont tenir des propos extrêmement nauséabonds, ils sont souvent qualifiés de dérapages. Et d'après Guy Berenbaum, et je partage en tout cas au moins ce questionnement, il semblerait que ce ne soit pas des dérapages, qu'en fait, on invite des gens dont on sait qu'ils vont tenir des propos qui vont susciter des réactions. Ces réactions vont se traduire en articles de presse qui vont mettre en avant les clashs et les propos nauséabonds, vont se traduire en publications sur les réseaux sociaux de gens qui vont dénoncer ces propos, voulant bien faire, mais qui finalement les exposent et exposent l'émetteur, le diffuseur. C'est le cas aussi des plateformes numériques. Là, je vous invite à regarder le discours de Sacha Baron Cohen, le comédien, il y a quelques jours, novembre 2019, et qui nous dit « Mais pensez-y, Facebook, YouTube, Google, Twitter, tous les autres, ils atteignent tous les jours des millions de personnes. » Mais en fait, les algorithmes de ces plateformes dépendent sur leur capacité à amplifier la haine. Mais en fait, pourquoi en fait, la haine est-elle amplifiée? Mais parce qu'en fait, elle crée de l'engagement, elle crée de la réaction, elle crée des commentaires, et elle est rentable. Et elle crée de l'engagement, c'est-à-dire elle crée du temps d'attention. Et donc, pour conclure, sur la question de responsabilité par rapport à cet univers numérique, eh bien, chacun de nous a une part de responsabilité. Alors évidemment, les acteurs du numérique ont une part de responsabilité. Les annonceurs, par le biais de leurs investissements publicitaires, ont une responsabilité. Quel modèle est-ce qu'ils souhaitent viabiliser? Et la responsabilité qu'on a tous, quelle que soit notre casquette finalement, qu'on soit grand média, qu'on soit décideur dans les médias, qu'on soit annonceur ou qu'on soit simple spectateur, utilisateur, eh bien la responsabilité c'est de se dire que ce à quoi on prête attention, nous le faisons s'épanouir. Au contraire, ce qui manque d'attention dépérit. Or, nos journées ne durent que 24 heures et notre temps d'attention est limité. Alors à quoi est-ce qu'on prête attention ? À l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle mondiale. Puisqu'à l'échelle mondiale, si on calcule le temps d'attention mondial chaque jour, qui est 24 heures au maximum, multiplié par le nombre d'humains sur Terre, on a un temps d'attention maximal. Et bien, comment ce temps d'attention chaque jour se répartit? Si on le considère comme un bien commun, qu'est-ce qu'on est en train de faire de ce bien commun? C'est une question que, en tout cas, cette façon de voir notre attention comme un bien commun, on la doit au philosophe mécanicien Matthew B. Crawford. Alors, on est tous devenus médias. Alors, la question, alors, c'est qu'est-ce que nous produisons? Quelle est notre propre ligne éditoriale? Quelle intention est-ce qu'on met derrière ce à quoi nous prêtons attention? Quelle intention on met derrière ce que nous relayons? Qu'est-ce que nous souhaitons voir s'épanouir? Est-ce qu'on souhaite continuer à produire des selfies pour entraîner toujours plus les outils de reconnaissance faciale? Alors, si nous le faisons, soit, mais dans quel but? Quelle est notre intention? Nourrir notre ego par des likes? Mais est-ce qu'en parallèle, on n'est pas en train de laisser s'éteindre certaines voix parce qu'on n'ose plus s'exprimer librement, parce qu'on sait que tout ce qu'on produit comme information en ligne laisse des traces? Alors, est-ce qu'on ne peut plus s'exprimer librement parce qu'on se sait surveiller? Ce phénomène porte un nom, c'est le « social cooling ». À quoi est-ce qu'on donne de l'écho, qu'on soit grand média ou simple citoyen? Là, c'est une capture d'écran du Monde diplomatique qui, alors que les médias s'enflammaient pour la soi-disant arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, eh bien, pour témoigner du fait qu'il pratique une autre forme de journalisme, il publie ce tweet. Je vais passer sur cette diapositive, c'est une citation du livre. Et simplement... Simplement, pardon, à propos de notre attention, On est aujourd'hui, on se rencontre dans le contexte de l'attention en contexte numérique. Mais il me paraît essentiel de rappeler que nous ne sommes pas que des êtres connectés aux écrans. Et nous pouvons aussi faire preuve d'attention bienveillante envers autrui, comme le fait William Cromarty, qui est un agent de station dans une gare aux États-Unis. Je vous invite à voir ce documentaire pour voir de quoi je parle quand je parle de l'attention envers autrui. Steven Spielberg nous le disait aussi en 2016 à Harvard, alors que c'est un homme de médias, il nous dit « Levez les yeux de vos écrans et regardez-vous les yeux dans les yeux ». Je voudrais aussi rappeler, puisque je l'évoquais en début de l'intervention, l'attention bienveillante envers la nature. Victor Hugo, ça ne date pas d'hier, nous le dit « C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas ». Mais ce qu'on n'est pas... est-ce que finalement cette phrase n'est pas d'une grande actualité ? Eh bien pour moi, pour conclure, il est crucial que nous prêtons attention à ce à quoi nous prêtons attention. Il est crucial que nous reprenions la maîtrise de notre attention de façon à ce que nous puissions passer d'une économie de l'attention à une écologie de l'attention et que nous préservions notre liberté de penser. Et il me semble également important, en ces temps que nous traversons, de transformer notre attention en vision. Vision is the art of seeing what is invisible to others. La vision est l'art de voir ce qui est invisible envers pour les autres. Et donc, transformer notre attention en quelque chose peut-être de supérieur, une véritable vision. Alors, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous dis, je vais laisser dans quelques instants la parole à Célia Zolinski. Et donc, pour ma part, je vous dis à bientôt sur avenirdespixels.net où je vais publier un article qui donnera accès à l'ensemble des ressources que j'ai mentionnées pendant cette intervention. Puisque cette conférence, pour moi, se connecte par son sujet, au projet qui se déploie de mon livre. Et mon livre qui est ici, en fait, si je dois en résumer le propos de la façon la plus synthétique possible, c'est « Notre attention façonne le monde et l'avenir des pixels est entre nos mains ». Merci beaucoup pour votre attention.